La guerre de 100 ans.
Depuis Hugues Capet, tous nos rois s'étaient succédés de père en fils. La règle était que les femmes ne régnaient pas, d'après une loi nommée la loi salique. Et quand le roi n'avait pas de fils, la couronne devait passer au plus proche de ses parents. Ainsi, à la mort de Charles le Bel, son cousin Philippe de Valois fut désigné comme roi. Et les Français le reconnurent comme leur souverain légitime. Mais le roi d'Angleterre, Édouard III, prétendit que la couronne devait lui revenir, parce que sa mère était la fille de Philippe le Bel. De là, une guerre qui dura 100 ans. Bientôt, Édouard entra en France avec une armée bien équipée et qui amenait avec elle de petits canons, chose qu'on ne connaissait pas encore. Quant aux chevaliers français, ils avaient toujours la même manière de combattre et ils ne savaient qu'une chose, qui était de charger l'ennemi. À la bataille de Crécy, ils avancèrent, comme à leur ordinaire. Mais les canons des Anglais effrayèrent les chevaux, le désordre se mit dans les rangs et ce fut un grand désastre. Malgré la bravoure des nôtres et de notre allié, le roi de Bohême, qui, aveugle, se fit conduire au plus fort de la mêlée. Après sa victoire, Édouard alla assiéger Calais, qui lui était commode pour communiquer avec son île. Lorsque les habitants furent affamés, ils décidèrent de se rendre. Mais le roi d'Angleterre exigea que les clés de la ville lui fussent apportées par 6 bourgeois de la ville, pieds nus, en chemise et la corde au cou. Voilà que la France était envahie par les Anglais et les malheurs n'étaient pas prêts de finir. Philippe de Valois étant mort, son fils Jean le Bon fut de nouveau attaqué par le prince de Galles, qu'on appelait le prince noir. Jean le Bon brûlait de venger la défaite de Crécy. Il rencontra les Anglais à Poitiers. Mais les Français n'avaient rien appris depuis leur désastre. Ils se battirent encore avec tant d'imprudence que le roi lui-même fut entouré par l'ennemi. La hache à la main, Jean le Bon abattait autant d'Anglais qu'il pouvait, mais il en venait toujours. Son plus jeune fils, qui était un petit garçon, se tenait à côté de lui et criait sans cesse « Père, gardez-vous à droite ! Père, gardez-vous à gauche !» À la fin, le roi dut se rendre et il fut emmené prisonnier à Londres. La fleur de la chevalerie était fauchée. Il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus de roi. Ce fut une grande douleur et un grand trouble en France. Jean le Bon étant mort, son fils Charles lui succéda. Le roi Charles V fut surnommé le Sage, non seulement parce qu'il était en effet sage et prudent, mais aussi parce qu'il était savant et qu'il lisait beaucoup de livres. Il avait vu comment la chevalerie française s'était fait écraser à Crécy et à Poitiers par sa folle bravoure, tandis que les Anglais étaient victorieux à cause de leurs bonnes armes et de leur discipline. Aussi entreprit-il de les chasser de France après avoir rétabli l'ordre, instruit des soldats et construit des vaisseaux. Aidé par un grand capitaine, le Breton Bertrand du Guesclin, il se mit à combattre les Anglais si rudement et avec tant d'habileté, se gardant de leur offrir la bataille quand ils étaient les plus forts, tombant sur eux dès qu'ils étaient isolés, qu'en peu de temps, il les eut presque chassés de France. Quand Charles le Sage mourut, le roi d'Angleterre n'avait plus que Bordeaux, Cherbourg et Calais. Charles le Sage, pendant tout ce temps, au lieu de s'exposer à être fait prisonnier comme son père, restait dans son château de Vincennes, car il était faible et chétif de corps, mais vigoureux par l'esprit. Entouré d'hommes savants comme lui, il travaillait à bien administrer son royaume et à le rendre riche et prospère, afin qu'il fût fort. Tandis que Bertrand du Guesclin, Olivier de Clisson et les bons capitaines couraient sus aux Anglais. C'est un des plus grands rois que la France ait eu. Et s'il n'était pas mort trop tôt, les malheurs qui suivirent ne nous fussent pas arrivés.